Merci d'écouter RFI, il est 13h à Los Angeles, 22h ici à Paris.
Simon Bourtembourg.
Une nouvelle journée sous haute tension à Los Angeles. Des rassemblements sont prévus dans plusieurs grandes villes américaines pour dénoncer les arrestations de ces trois derniers jours. 150 personnes ont été arrêtées depuis vendredi lors des rassemblements d'opposition à la politique migratoire américaine. Donald Trump est accusé d'avoir attisé le feu en déployant la garde nationale. Le président américain se félicite d'une excellente décision. À la une de ce journal également, l'appel à la mobilisation d'Emmanuel Macron en ouverture de la conférence de l'ONU sur les océans. Plus de 60 dirigeants du monde entier sont réunis pour une semaine à Nice. Le président français a d'ores et déjà annoncé la prochaine entrée en vigueur du traité sur les hautes mers. Et puis, en fin d'édition, nous reviendrons sur le rassemblement de l'extrême droite européenne autour de Marine Le Pen. C'était en France, dans le Loiret. Les manifestations ont donc repris un peu partout aux États-Unis ce lundi. Depuis vendredi, des rassemblements contre la politique migratoire de Donald Trump agitent la Californie. Le président américain, qui a en réponse annoncé le déploiement de 2000 membres de la garde nationale contre l'avis des autorités démocrates de l'État. Une situation qui alarme le gouverneur de Californie. Il l'a d'ailleurs qualifié d'illégal. Bonsoir Nicolas Rocca.
Bonsoir Simon.
Nicolas, des manifestations ont donc repris dans les rues de Los Angeles.
Oui, plusieurs centaines de personnes exigent notamment la libération de David Huerta, un syndicaliste arrêté vendredi dernier lors des premières manifestations à Boston, Seattle, New York, Chicago. Au moment où je vous parle, des cortèges expriment la même demande. Pour l'instant, d'après les images qui nous parviennent, on est loin des voitures brûlées, des tirs de gaz lacrymogène ou de balles en caoutchouc, des scènes de violence de la nuit dernière à Los Angeles lorsque des manifestants ont tenté de s'interposer face aux arrestations très musclées des agents de ICE, la police qui applique la politique migratoire de Donald Trump. La situation semble relativement calme à Los Angeles ce lundi où réside une importante population hispanique. On est assez loin de la crise terrible que décrit Donald Trump, le président américain qui continue de faire planer le doute autour d'une possible intervention supplémentaire de la part de l'armée. L'agence Reuters assure que plusieurs centaines de forces spéciales pourraient être déployées. Le président américain évoque la possibilité d'invoquer l'Insurrection Act, une loi sur l'insurrection qui permettrait de déployer les forces armées à travers le territoire américain.
Nicolas Rocca du service international de RFI, merci beaucoup. Alors que ce soir, l'ONU appelle à la désescalade aux États-Unis. Washington et Téhéran à couteau tiré sur le dossier du nucléaire iranien. La question de l'enrichissement d'uranium au cœur des crispations. L'administration américaine exige que Téhéran y renonce. Une demande non négociable, rétorque aujourd'hui la diplomatie iranienne. L'Iran fait par ailleurs savoir qu'une proposition pour un potentiel accord sur le nucléaire sera prochainement soumise aux États-Unis. Jusqu'à présent, les projets d'accord butent sur de vives réticences du gouvernement israélien. À ce sujet, justement, Donald Trump doit s'entretenir prochainement avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le Madeleine est arrivé ce soir au port israélien d'Ashdod. Plus de 15 heures après avoir été arrêté, le navire humanitaire est donc réapparu, escorté par deux bateaux de l'armée israélienne. Le voilier tentait avant ça de rallier la bande de Gaza avec de l'aide humanitaire à son bord et 12 militants pro-palestiniens, dont la suédoise Greta Thunberg. Pas du tout du goût donc des autorités israéliennes qui l'ont dérouté. Une arrestation illégale selon l'équipage et l'ONG Freedom Flotilla qui affrétait le navire. Un avis partagé par Julia Grignon, professeure en droit international humanitaire à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire.
Quand un navire est en haute mer, il ne peut pas être arraisonné sauf s'il y a des soupçons que l'équipage ou que le navire a servi à commettre des crimes graves de type piraterie ou esclavage. Donc en l'occurrence, à ma connaissance, c'est pas ce qui s'est produit et donc il ne pourrait pas y avoir d'arraisonnement de ce navire dans les eaux internationales si c'est bien là qu'a eu lieu l'arraisonnement. Et d'ailleurs, il y a un précédent puisqu'il y a déjà une flottille en 2010 qui avait essayé de rompre le blocus israélien, la flottille Mavi Marmara. Et il avait été considéré que son arraisonnement en haute mer était illicite au regard du droit international. La Cour pénale internationale avait été saisie et finalement elle n'avait pas poursuivi pour défaut de gravité. Mais il y a eu des rapports qui ont été produits et qui ont considéré à l'époque, donc c'était un arraisonnement par les autorités israéliennes d'une flotte de navires. Et à l'époque, il avait été considéré que l'arraisonnement était illicite et que l'emploi de la force était disproportionné.
La professeure Julia Grignon, alors que pour s'inquiéter du sort des militants présents sur ce fameux bateau, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées ce soir en France à l'appel de la gauche, la France insoumise, qui revendique la présence de 150 000 manifestants dans près de 200 rassemblements à travers le pays. Emmanuel Macron a appelé au retour dans les plus brefs délais des ressortissants français. Le président français, par ailleurs, à l'offensive pour la protection des océans. Emmanuel Macron a ouvert ce matin le sommet de l'ONU sur l'océan qui se tient donc cette semaine à Nice. Plus de 60 chefs d'État et de gouvernement sont présents pour l'occasion dans le sud-est de la France. Un auditoire de marque qu'Emmanuel Macron a invité à ratifier le traité sur la haute mer. Et le texte signé en juin 2023 pourrait désormais entrer en vigueur, en tout cas à partir du mois de janvier, c'est ce qu'a annoncé le chef de l'État. Le traité porte sur la conservation de la haute mer, soit 64% de l'océan, avec pour le moment très peu de zones protégées. Cette semaine à Nice, il sera aussi question d'un autre sujet d'importance, à savoir l'aquaculture. Les activités d'élevage des animaux qui pèsent très lourd dans la pollution de l'eau. Agnieszka Kumor.
En 30 ans, la quantité de poissons et de crustacés élevés par l'homme a été multipliée par 5. En 2023, cette production a atteint 99 millions de tonnes dans le monde. Parallèlement, celle de la pêche a stagné et ne dépasse pas aujourd'hui les 94 millions de tonnes par an. Pourtant, cette aquaculture intensive constitue un risque pour l'environnement. Elle participe à la pollution des eaux avec les rejets de produits chimiques et de médicaments dans le milieu naturel. Autre danger, des maladies se propagent hors des bassins de culture et peuvent affecter les espèces sauvages, prévient la FAO. L'organisation plaide pour l'aquaculture durable basée sur les méthodes d'élevage lentes qui utilisent les ressources naturelles. Problème, alors que la demande pour les produits de la mer augmente, ces fermes artisanales ont du mal à résister face à la concurrence industrielle. Au total, le secteur des produits de la mer pesait 179 milliards d'euros en 2022.
L'ancien président brésilien comparaît en ce moment devant la Cour suprême. Jair Bolsonaro est directement accusé d'une tentative de coup d'État. C'était en janvier 2023. Des milliers de ses sympathisants avaient pris d'assaut et saccagé le palais présidentiel, le Parlement et la Cour suprême pour dénoncer des fraudes électorales. En cas de condamnation, l'ex-dirigeant d'extrême droite encourt une lourde peine de prison. À l'extrême droite européenne, cette fois, était réunie en France dans un petit village du Loiret, Mormant-sur-Vernisson, un village de moins de 150 habitants. C'est là que des milliers de personnes étaient réunies ce lundi pour écouter notamment le Premier ministre hongrois ou encore l'Italien Matteo Salvini. L'occasion pour Marine Le Pen de s'assurer donc d'un soutien de dirigeants étrangers et ce un an après son succès aux européennes. Raphaël Delvolvé.
Chaque jour qui passe et un jour de moins avant que Marine Le Pen devient président de la République.
L'Espagnol Santiago Abascal, le chef de Vox, y croit. Et Marine Le Pen est toujours candidate. Elle parle en tout cas comme telle quand elle fustige l'Union Européenne.
C'est un empire marchand, wokiste, ultralibéral. C'est un empire contre nos nations.
Bruxelles, source de tous les maux, y compris les siens.
Voyez ce qui s'est passé en Roumanie. Les persécutions judiciaires partout. Regardez ce qui se passe en France, où l'on veut interdire à la principale opposante que je suis de se présenter à l'élection présidentielle.
Il y a un an, les européennes furent triomphantes pour l'extrême droite, mais la suite délicate. Défaite aux législatives anticipées, condamnation à de l'inéligibilité, concurrence du ministre Bruno Retailleau dans les sondages. L'europhobie décomplexée permet de rester présidentiable et assure le soutien de dirigeants étrangers. Le premier ministre hongrois Viktor Orban est dithyrambique.
Marine est une personne formidable, une combattante courageuse. La France doit être vraiment très riche pour se permettre ce luxe de ne pas l'avoir comme présidente.
La situation est loin d'être morose, se rassure un élu RN à la fin du meeting. Ou comment, avec l'ennemi Union européenne, se donner une stature et de l'espoir pour un avenir incertain.
Reportage signé Raphaël Delvolvé. Puis on vient d'apprendre sa disparition. Sleestone est mort ce lundi. Compositeur et producteur américain, il fut l'un des pionniers du funk. Sylvester Stewart, de son vrai nom, est décédé à l'âge de 82 ans. L'annonce est venue ce soir des médias américains. RFI, 22h passées de 10 minutes ici à Paris.